le magazine des Nations Unies.
Processus électoral, résultat des scrutins du 30 décembre 2018. Le Conseil de sécurité de l'ONU réitère son soutien et son engagement en faveur de la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en République démocratique du Congo. La déclaration des 15 a été rendue publique mardi dernier au terme d'une réunion sur la situation en RDC après la publication des résultats provisoires par la CENI. Les détails de cette déclaration dans quelques instants. Et puis beaucoup d'avancées dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le monde. C'est en tout cas une chronologie de l'ONU Femmes dans sa rétrospective en 2018. Dans cette édition, quelques-uns des moments les plus marquants dans la quête des droits des femmes et l'égalité des sexes. Violence dans la partie ouest de la RDC, près de 900 tués à la mi-décembre 2018, selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et qui demande l'ouverture d'une enquête. Voilà tout pour les titres de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de cette première édition du magazine des Nations Unies 2019. Alors, comme annoncé dans le sommaire, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est félicité du fait que la paix et la stabilité en RDC ont été préservées pendant les processus électoraux. En même temps, l'organe exécutif des Nations Unies se dit engagé en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de la République démocratique du Congo. Le condensé du message des 15 avec Blaise Makassi.
Les membres du Conseil de sécurité ont félicité toutes les parties et tous les acteurs de la RDC pour avoir assuré la paix et la stabilité pendant le processus électoral et ont exhorté toutes les parties intéressées à s'abstenir de la violence. Ils ont pris note de l'annonce par la CENI des résultats provisoires des élections présidentielles et provinciales en République démocratique du Congo du 10 janvier 2019 et des élections législatives du 12 janvier. Ils se sont félicités de la tenue pacifique des élections en dépit des difficultés techniques, logistiques et sécuritaires, le jour des votes et de la décision de suspendre les votes dans certaines régions du pays pour des raisons spécifiques de santé et de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité ont noté que les différends avaient été portés devant la Cour constitutionnelle. Ils ont encouragé toutes les parties prenantes concernées à préserver le climat généralement pacifique des élections et à faire valoir leurs réserves ou leurs différends par les biais des mécanismes et processus appropriés prévus dans la constitution de la RDC et dans sa loi électorale. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur soutien et leur engagement sans faille en faveur de la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en République démocratique du Congo.
ONU toujours, cette fois dans le volet lutte pour les droits de femmes et l'égalité des sexes, l'ONU Femmes parle des grandes premières dans sa chronologie rétrospective 2018. Honoré Missenga Kalala.
L'offre gratuite du gouvernement écossais des tampons et des serviettes hygiéniques à toutes ses élèves et étudiantes compte parmi les plus grandes premières mondiales de 2018, affirme ONU Femmes. La décision a été prise en août dernier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en période de menstruation et à la suite d'une étude selon laquelle environ 45% des filles écossaises utilisaient du papier toilette ou d'autres objets comme des chaussettes ou de journaux en cours de menstruation. Autre grande première mondiale dans la lutte en faveur des droits des femmes et l'égalité des sexes, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern est devenue en juin 2018 la première dirigeante de haut rang à prendre un congé de maternité et la deuxième à donner naissance au cours de son mandat. Enfin, ONU Femmes note qu'au cours de l'année dernière, les femmes ont gagné beaucoup de terrain en politique, notamment au sein des institutions législatives. L'organisation cite dans ce domaine les exemples du Rwanda, du Cuba, de la Bolivie et du Mexique.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Et nous recevons dans cette rubrique décryptage Madame Rose Mutombo-Kiese, les présidentes du cadre permanent de la femme congolaise CAFCO. Son entretien porte essentiellement sur les séminaires de formation des avocats sur les contentieux électoraux organisés par sa plateforme la semaine dernière dans le cadre d'un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Rose Mutombo-Kiese répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame Rose Mutombo-Kiese, bonjour.
Bonjour.
Une formation des avocates sur les contentieux électoraux. Quelle est la motivation de CAFCO?
La motivation des CAFCO est due au fait qu'on a eu à évaluer les deux processus électoraux précédents. Nous avons remarqué que beaucoup de femmes candidates qui avaient des difficultés pour poursuivre leurs contentieux au niveau des cours et tribunaux. C'est ainsi que dans notre programme d'accompagnement de femmes au processus électoral de 3 ans, nous avons inclus cette thématique pour que les femmes qui auront des litiges électoraux soient soutenus, assistés et accompagnés par les femmes avocates et avocats que nous allons former.
Oui, mais il y a plus d'avocates que d'avocats.
Bien sûr, CAFCO est une plateforme de femmes. Nous avons privilégié les femmes que les hommes et les hommes sont là pour faire le genre. Sur les 30 participants, nous avons 10% des hommes.
Madame, alors, quel est l'objectif principal de cette formation?
L'objectif principal de cette formation, c'est d'abord d'aider les avocates par rapport au processus électoral en travaillant avec elle sur les innovations de la loi électorale, notamment le seuil qui pose problème aujourd'hui et les cautions, et aussi les outiller, les renforcer pour qu'elles soient compétitives devant les cours et tribunaux en accompagnant leurs clientes ou clients et surtout d'avoir une base de données des femmes avocates qui maîtrisent les procédures et les contentieux électoraux.
Vous pouvez nous situer dans quel contexte vous organisez cette formation?
Oh, nous organisons cette formation dans un contexte post-scrutin, puisque vous le savez très bien que le scrutin a eu lieu le 30 du mois passé et que après le scrutin, il y a des contentieux, des litiges, et nous osons croire que toutes les femmes qui auront, surtout pour la ville-province de Kinshasa, puisque c'est un projet pilote qui ne prend que la ville de Kinshasa, nous osons croire que toutes ces candidates-là qui ont besoin d'une assistance des avocats pourront avoir l'avantage de bénéficier des avocates qui seront formées.
Cette activité entre dans le cadre d'un programme du processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous dire des activités antérieures avant celle-ci?
CAFCO a eu dans son plan d'action de l'accompagnement des femmes au processus électoral à faire plusieurs formations avec les femmes candidates, notamment les coachings des femmes candidates. Et ce programme de coaching a eu lieu à Kinshasa et dans 10 provinces de la RDC. Après cela, on a eu un quota de femmes observatrices qui ont eu à observer sur toute l'étendue de la République. On avait un quota de plus de 4000 observatrices à travers le pays. Mais ce travail, nous l'avons fait à travers la synergie des élections qui étaient CIMOCEL. Après cela, nous avons formé les femmes en médiation, puisqu'on a remarqué que le jour du scrutin et pendant la campagne électorale, il y a beaucoup de violences pendant cette période-là. Il y a beaucoup de conflits électoraux les jours des élections. Pour le 30 décembre, nous avons pu répertorier plus de 580 cas de conflits électoraux à travers la République. Et nos médiateurs et médiatrices ont eu à jouer un grand rôle pour pouvoir éteindre les tensions, les discussions, les disputes, que ce soit pour les électeurs, que ce soit pour les électeurs et les agents électoraux, ou que ce soit les électeurs et les services de sécurité. Maintenant, on est en pleine rédaction de notre rapport qui sera présenté à la fin de ce mois. C'est une nouvelle expérience qui a démontré vraiment qu'il faut un travail pareil pour qu'il y ait la paix les jours le script.
Dans ce programme d'accompagnement du processus électoral, votre partenaire, c'est le PNUD.
Oui, PNUD nous accompagne depuis 2 ans. Comme je vous ai dit, que c'est un plan d'accompagnement de femmes pour CAFCO. C'est un programme qui avait commencé bien avant qu'on mette le calendrier en place. C'était en soi en prévision des élections de 2016. Mais maintenant qu'on est en train d'achever ce programme qui est pratiquement à la fin maintenant.
Alors concrètement, quel est l'apport du PNUD dans cet accompagnement?
Cet accompagnement de PNUD nous a donné vraiment de bons résultats, puisqu'il y a des femmes que nous avons formées dès le début qui venaient à peine d'entrer dans la politique. Aujourd'hui, on a au moins 4 femmes dans notre base de données qui ont été élues et dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines provinces. Ça démontre que quand on travaille à temps sur une thématique, on a aussi des résultats. Et vous voyez très bien avec l'accompagnement de femmes. On a pu faire quand même un petit bond en avant. On est aujourd'hui à 50 femmes élues et nous espérons qu'avec les quelques circonscriptions qui restent, on pourra peut-être avoir 5 femmes dans le lot. Et ça serait sans compter qu'il y a le contentieux qui peut nous aider à récupérer certaines femmes aussi. Ça nous donne quand même de l'espoir que un travail bien fait donne quand même de bons résultats.
À part cette thématique, vous envisagez d'organiser d'autres thématiques?
CAFCO travaille beaucoup dans la participation politique des femmes à travers la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous travaillons beaucoup dans les violences faites aux femmes ou les violences basées sur le genre. Nous travaillons sur les lois aussi et nous attendons avec le nouveau Parlement. Nous allons voir comment contribuer à intégrer les aspects genre dans les lois qui seront promulguées dans cette législature.
Vous attendez encore quoi du PNUD pour les autres thématiques pour l'avenir?
On va renégocier un nouveau programme et on va voir quelles sont les thématiques que PNUD va retenir puisqu'ils auront aussi un nouveau programme. C'est à partir de leur programme que nous allons nous accrocher par rapport aux différents projets que nous allons proposer ou postuler au niveau des Nations Unies d'une manière générale et particulièrement auprès de PNUD.
Alors pour la suite ou pour les futurs scrutins, quel est le message de CAFCO?
Je demande aux femmes d'être combatives, de postuler, d'exprimer leurs ambitions et surtout de donner le meilleur d'elles-mêmes puisque à travers les élections, nous pouvons changer la donne de ce pays. Je demande aussi aux futurs décideurs, aux futures autorités de tenir compte dans les nominations de femmes puisque les postes nominatifs ne demandent pas qu'il y ait des élections et que notre loi sur la parité et notre article 14 de la Constitution ne limitent pas cette parité-là seulement par rapport aux élections, mais c'est aussi par rapport aux postes nominatifs. Nous voulons voir dans un gouvernement où il y aura plus de femmes aussi. Nous voulons voir des mandataires publics où il y a plus de femmes. D'ailleurs, on a des preuves dans ce pays quand on a eu à évaluer le travail des mandataires il y a quelques années. Les meilleurs, c'était des femmes. Et nous voulons voir vraiment que avec la nouvelle République qui va commencer, qu'il y ait quand même un changement dans la participation politique des femmes.
Madame Rose Moutomokiese, merci beaucoup.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Bref, commençons par l'Est de la RDC, où il s'est observé de lundi à mercredi de la semaine des vols d'entraînement de routine des hélicoptères de la MONUSCO dans le ciel de Beni, au Nord Kivu. Un entraînement de routine selon les autorités de la mission onusienne dans le Grand Nord. Le chef de bureau local de la MONUSCO, monsieur Omar About, avait appelé à cet effet la population de Beni et des environs au calme et à la sérénité. Restons dans la même zone pour parler de la condamnation de 4 militaires FARDC à des peines allant de 12 mois à 7 ans de servitude pénale principale à l'issue d'une audience foraine du tribunal militaire de garnison de Beni-Boutembo, siégeant premier degré en matière répressive dans une procédure de flagrance à Kabacha. Ces militaires condamnés ont été reconnus coupables des infractions de violation des consignes et d'extorsion des biens de la population. La participation des victimes à cette audience a été rendue possible grâce au concours du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Enfin, êtes-vous prête à parcourir 2 milliards de kilomètres? 2 milliards de kilomètres, c'est en fait une nouvelle campagne mondiale annoncée la semaine dernière par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, l'UNHCR, qui appelle le grand public à travers le monde à couvrir la distance parcourue chaque année par les réfugiés. En retraçant les périples des réfugiés à travers le monde, l'UNHCR a calculé que, collectivement, les personnes contraintes de fuir leur milieu parcourt environ 2 milliards de kilomètres chaque année vers un premier point de sécurité.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et notre invitée de ce jour est Sophie Sabatier, coordonnatrice du pool d'urgence de MSF. Elle nous parle de la situation humanitaire qui prévaut dans la zone de santé de Yumbi. Nous sommes là dans la province de Maïndombe. Elle plaide également pour que les humanitaires y déploient leurs interventions. Sophie Sabatier s'entretient avec Paul Matendo.
Sophie Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation actuelle dans la zone de santé de Yumbi?
La situation actuelle, c'est depuis en fait les violences qu'il y a eu à Yumbi, il y a eu au mois de décembre, il y a eu un déplacement de population assez important dans toute la zone de santé de Yumbi. Certaines personnes sont parties se réfugier de l'autre côté du fleuve au Congo. Une partie de la population est sur les îlots sur le fleuve Congo et une autre partie de la population, elle, a trouvé refuge à l'intérieur des terres au sud de Yumbi.
À combien pouvez-vous estimer le nombre de ces déplacés?
C'est un peu difficile, mais on pense qu'il y a entre 20 et 30 000 personnes.
Quelle est la tranche d'âge de la population qui est beaucoup plus affectée par la situation humanitaire?
C'est tout le monde. Hein. Tout le monde est affecté, que ce soit les enfants ou les adultes. Bien sûr, au niveau santé, les enfants de moins de 5 ans sont toujours plus vulnérables. Mais sinon, tout le monde, une grande partie de la population était en situation de déplacement. Et ils sont partis sans prendre leurs affaires ou prenant quelques affaires. Ils sont en situation où ils ont besoin, que ce soit au niveau de nourriture ou que ce soit au niveau abri. La population est dans le besoin.
Comment MSF prend en charge ces déplacés?
Alors, MSF a fait plusieurs actions. La première, c'est juste après les violences, nous avons fait des donations à trois hôpitaux pour la prise en charge des blessés qu'il y avait eu à l'issue de ces violences. Nous avons aussi fait des référencements de certains blessés dans des hôpitaux qui peuvent donner les soins adaptés. Il y a une dizaine de patients comme ça qu'on a référés. Et aussi, nous mettons en place une activité de clinique mobile pour assurer l'accès aux soins de santé primaires aux populations qui sont déplacées. Donc aujourd'hui, nous avons deux équipes de clinique mobile qui vont sur certains îlots pour donner l'accès à la santé aux personnes qui sont parties sur les îlots et aussi à l'intérieur des terres au sud de Yumbi pour les personnes qui se sont déplacées dans ces villages.
Y a-t-il des interventions de la zone de santé?
Tout à fait, nous, en tant que partenaire médical, on travaille toujours en collaboration avec le ministère de la Santé, donc c'est avec eux qu'on fait les cliniques mobiles et qu'on prend en charge les blessés.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter la détérioration de la situation sanitaire?
Oui, il faut continuer à apporter un support, que ce soit aux personnes directement ou aux hôpitaux, au système de santé. Comme je dis tout à l'heure, les personnes ont besoin que ce soit de la nourriture ou des bâches ou des couvertures, des moustiquaires. C'est aussi c'est aussi une saison où on voit un pic de malaria. Donc les moustiquaires aussi sont très importantes.
Vous appelez aussi Sophie Sabatier, les autres acteurs humanitaires à déployer leurs interventions.
Tout à fait, oui. Il faut vraiment qu'il y ait une action humanitaire. Un déploiement de la réponse humanitaire dans la zone de Yumbi. C'est un moment où il y a du palud et il y a beaucoup de moustiques à Yumbi, et le fait que les gens se soient déplacés, qui n'ont pas pu prendre leurs affaires, qui sont sur des îlots ou alors qui dorment chez d'autres habitants, fait que oui, effectivement, on pense que dans nos cliniques mobiles, il y a vraiment une forte population qui a le palud. Hein.
Sophie Sabatier, je vous remercie.
Merci.
Oui. 190 personnes ont été tuées dans des violences à l'ouest de la RDC à la mi-décembre. C'est en tout cas ce qu'indique le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, se basant sur des rapports crédibles. L'annonce a été faite mercredi dernier à Genève. Michel Bachelet, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, demande l'ouverture d'une enquête à ce sujet. Il est crucial que toute cette violence fasse l'objet d'une enquête approfondie et rapide et que ses auteurs soient traduits en justice, affirme-t-elle. Jean-Pierre Lalicoco pour les détails.
Le communiqué diffusé à ce sujet indique que selon les allégations des sources crédibles, au moins 890 personnes auraient été tuées et 82 autres blessées entre le 16 et le 18 décembre 2018 dans 4 villages du territoire de Yumbi, dans la province de Maïndombé, lors des affrontements entre les communautés Banounou et Batindé. Cependant, le même rapport cité par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme indique que le nombre réel de victimes devrait être plus élevé. Outre le mort et les blessés, les conflits a occasionné, d'après les mêmes sources, le pillage ou l'incendie des 465 maisons et bâtiments dont deux écoles primaires, un centre de santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la CENI. La majorité de la population des villages touchés aurait été déplacée, y compris 16 000 personnes environ qui se sont réfugiées au Congo-Brazzaville, ajoute la même source. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir ouvert une enquête sur ces informations alarmantes. Les autorités judiciaires nationales congolaises ont également ouvert une enquête.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Au cours de l'une des dernières conférences des Nations Unies en 2018, une question a été posée en rapport avec le rapatriement des FDLR. Suivez la question et bien évidemment la réponse du porte-parole de la force de la MONUSCO, complétée par Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.
Il y a eu dernièrement rapatriement de derniers éléments FDLR, basés essentiellement dans la partie est, dont le plus grand nombre est à Goma. Au jour d'aujourd'hui, peut-on dire avec certitude qu'il n'existe plus un seul élément FDLR en terre congolaise? Merci.
Ok, merci pour la question. On ne peut pas dire, présumer qu'il n'y a pas de guerre, mais dans cette zone, il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'affrontements armés et des attaques contre la population civile. Et on reste très proactif et on ne se contente pas d'observer. Chaque fois qu'on a une présence militaire, des groupes armés, on dépêche notre patrouille. Une fois qu'on a l'information, on dépêche notre unité pour venir à l'aide à la population civile.
Merci, commandant. Je vais un petit peu compléter. Comme vous le savez, ce processus de rapatriement des ex-FDLR, mais aussi de tous les ex-combattants, est un processus qui est initié dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc, ce processus de rapatriement avait été décidé l'année dernière par les chefs d'État de la région, signataires de l'accord d'Addis Abeba, lorsqu'ils avaient eu leur réunion du comité régional de suivi à Brazzaville. Et ils avaient alors fixé la date du 23 octobre 2018 pour le rapatriement des ex-FDLR. Et c'est la raison pour laquelle les opérations ont été effectuées ces dernières semaines. Comme vous le savez, certains de ces ex-FDLR étaient stationnés depuis 2014 dans des camps qui étaient gérés par la MONUSCO. Mais le processus de rapatriement en lui-même a été entièrement géré par les autorités congolaises et les autorités rwandaises de l'autre côté de la frontière, qui ont pris immédiatement en charge les ex-combattants à leur arrivée.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Daniela Tarizza, je suis née sous le soleil de la ville de Rome, en Italie. J'ai commencé ma vie de pèlerinage partout dans le monde très jeune. J'ai commencé comme volontaire dans des ONG chez mon pays et j'ai suivi toujours cet intérêt à me mettre au service des autres, même après le mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas facile de concilier une vie à l'étranger, de travail, parfois un peu aussi difficile avec une vie de famille. J'ai poursuivi mes études initialement en Italie et puis je les ai continuées à l'étranger. J'ai fait des études humanitaires et des études de sciences politiques. J'ai étudié des langues aussi parce que je pensais que de toute manière l'intérêt à travailler à l'étranger était lié à la possibilité de pouvoir communiquer avec les gens dans leur langue. Donc j'essayais d'apprendre toutes les langues des pays où je travaillais. C'est pas facile d'apprendre des langues, surtout si c'est des langues très différentes à celles qu'on qu'on est déjà. Mais les gens apprécient beaucoup. C'est très facile de rentrer en communication. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire ici à Kananga aussi, au Kasaï central, où la plupart des gens parlent Chiluba, et qui est une langue très belle, très difficile. C'est très apprécié de leur part de voir que quelqu'un essaye de communiquer, même en faisant des fautes. Je travaille dans le bureau des affaires politiques. J'ai commencé dans la mission au sein de l'équipe électorale. Et puis, j'ai été déplacée dans le Kasaï central pour suivre les changements politiques en vue de la mise en œuvre de nouvelles élections. Donc cela fait déjà un an et demi que je suis suis à Kananga. J'aime dire que chaque jour, quand j'arrive au bureau, c'est la surprise. On ne sait jamais de quoi on va devoir s'occuper au-delà de ce qu'on a planifié. C'est très important parce que garder la flexibilité dans un endroit qui est en train de reconstruire sa vie normale et de redévelopper des équilibres, soit politiques, soit de vie civique, c'est important de garder la possibilité de s'adapter aux nécessités quotidiennes. Mon travail se centre plutôt sur l'interaction avec tous les partis politiques, les groupes et les mouvements citoyens, bien entendu les autorités gouvernementales et territoriales, la société civile, et je travaille beaucoup avec les forces militaires. Ça aussi c'est très important parce que savoir se mettre en contact, se mettre en relation avec des différentes cultures passe par ce que les différentes cultures ont comme leur structure sociale. J'essaie de garder mon esprit volontaire dans tout ce que je fais, la disponibilité à communiquer avec les autres, la disponibilité à apprendre toujours où je suis et la capacité de lire la réalité, de laisser que la réalité vienne à moi et me parle et me laisse comprendre, me permette de comprendre ce que je dois faire et comment je vais être le plus utile possible. Avant d'arriver à la MONUSCO, ma vie professionnelle a été caractérisée presque toujours par le volontariat. J'ai commencé comme volontaire, j'ai aussi travaillé comme professionnelle dans des différents endroits, y compris dans les Nations Unies, mais j'ai toujours eu la tendance à retourner à me mettre au service comme volontaire. C'est le cadre qui me permet d'être plus fonctionnelle. Temps libre, bon, moi, j'en ai pas beaucoup, en fait. J'aime bien mon travail et j'aime bien considérer que je m'amuse au travail aussi, je prends mon temps au travail aussi, même lorsque, dans la plupart des cas, c'est très hectique et c'est très tout le temps en courant. Mais j'aime bien, je sais pas, préparer mon thé, par exemple, le partager avec quelqu'un, perdre 2 minutes de plus pour lire davantage quelque chose au-delà des documents que je suis en train de lire, écouter de la musique même si je suis en train de travailler. J'aime bien la musique locale, c'est-à-dire j'aime bien découvrir les musiques qui sont. Ça répond un peu aussi à mon intérêt sur les langues. En fait, j'aime toutes les musiques sauf la musique hard. Mais comme j'aime bien voyager, alors là, le voyage aussi, ça se réconcilie beaucoup avec ce travail. Vous savez, la RDC est mon 77e pays. Mon travail a pu se réconcilier beaucoup avec ma passion de voyager. J'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore partager ce que je cuisine avec les amis, avec les gens qui sont capables de l'apprécier. Bon, l'avenir, concept général, c'est continuer mon travail. Bon, toujours dans le domaine de la coopération internationale et de la facilitation de la paix. Donc oui, un travail politique, un travail social, un travail d'interculture, un travail de diplomatie, de relations. Essayer de trouver la manière d'aider les autorités qui ont à charge un territoire, une population, une communauté à se mettre en condition de pouvoir s'en occuper. C'est ça qui va engendrer une paix durable. Grazie Radio Capi, siete grandi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À retenir dans votre carnet cette semaine, le 22 janvier, présentation du rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration cette année du 100e anniversaire de l'Organisation internationale du travail, OIT. Deux autres dates à retenir, le 26 janvier, c'est la journée mondiale de la douane et sur l'éthique. Le 27 janvier, c'est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et voilà, madame et messieurs, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Bob Landou, Honoré Missingakala Lake au reportage et à la réalisation, Jean-Pierre Lali Coco au reportage également et à la coordination sous la supervision de Martin Sebujangwe. Portez-vous bien, à bientôt sur Radio Capi.